Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est de 11h à midi le dimanche. Maurice, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui ce sera un soleil nocturne, ou plutôt une grande lune. Un 21 février 1978, la lune est née sous un trottoir de Mexico.
Maurice, dimanche dernier, nous étions au musée d'anthropologie juste à côté de Mexico, hein, Chapultepec.
C'est dans la ville de Mexico encore, c'est le plus grand parc de la ville de Mexico. Ça fait quelque chose comme, beaucoup d'hectares.
Au moins, On prend le métro, on va carrément au centre.
Oui, vous pouvez le prendre à Chapultepec. Et puis, pour aller dans le centre, vous allez naturellement descendre sous terre. Le métro, c'est une construction incroyable qui était faite à partir de 1964, en fait, mais qui... je dirais 64, c'est plutôt 68, parce que ça a été fait surtout pour les Jeux Olympiques de 1968. Et on a créé les premières lignes en pensant que ce serait presque impossible. C'est un métro français absolument incroyable. Et quand vous prenez la rame à Chapultepec, eh bien, vous allez changer à Pino Suárez. À Pino Suárez, c'est un endroit que j'aime bien parce qu'il y a à peu près 6 millions de personnes qui s'y croisent par jour, grosso modo. Et c'est un endroit où on peut marcher longtemps. Et tout à coup, en plein milieu de la station, vous avez la lumière du jour qui arrive, un petit patio, et là vous avez votre première construction précolombienne. Parce que quand on a construit le métro, on a trouvé des centaines, des milliers de pièces archéologiques dans le sous-sol de Mexico. Et ce petit temple, c'est un temple rond qui est voué au dieu du vent. Il a vraiment cette forme arrondie, comme une sorte de plateforme ronde, pleine de petits hiéroglyphes. Bah oui, ça nous montre qu'à 5, 6, 7 mètres sous terre, il y a partout, des constructions précolombiennes qui ont évité le bulldozer des Espagnols, ou plutôt le bulldozer indien, comme par les Espagnols, puisqu'on a demandé de tout détruire après la chute de Mexico Tenochtitlan qui a eu lieu, allons-y, le 13 août 1521. À partir de là, on a décidé non pas de conserver la ville comme elle l'était depuis 1519, mais de la détruire, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui correspondait à l'art précolombien, ou plutôt à la religion, bien sûr.
Maurice, c'est le début de l'après-midi, on est à...
On est toujours à Pino Suárez, il faut changer de rame, et il y a à peine 500 mètres à faire. Et je crois que c'est un des moments les plus incroyables d'une visite de Mexico, c'est prendre justement le métro et sortir à la station de Zocalo. Et quand vous êtes au Zocalo, vous avez d'ailleurs un passage souterrain qui vous permettrait d'aller carrément de Pino Suárez jusqu'au Zocalo, et souvent on fait la foire du livre, alors vous avez 500 mètres comme ça de livres, c'est incroyablement long, et quand vous débarquez dans cette station, on a replacé toutes les maquettes de ce qu'était le cœur de la ville de Mexico. Alors on a le cœur précolombien, on a le cœur colonial, et puis le côté plus contemporain avec les tramways, etc. Mais vous avez systématiquement la grande édification du Templo Mayor qu'on va visiter maintenant, c'est-à-dire cette immense pyramide jumelle qui se trouve à côté de la cathédrale. Et puis vous avez naturellement la forme de cette place avec le palais de Cortés qui est devenu le palais national et qui est immense, un immense carré. Il faut voir les maquettes pour se rendre compte de l'importance de ces cuadras.
Ça, c'est dans le métro.
Ça, c'est dans le métro. Et puis tout à coup, là, vous allez prendre l'escalier et d'un seul coup, vous allez... vous retrouver en plein cœur de cette place. C'est une place immense, vide, avec simplement l'immense drapeau mexicain qui est au centre, qui sort à 6h du matin avec la fanfare et l'armée, et qui va se coucher à 6h du soir. C'est très intéressant à voir, d'ailleurs, en fin de journée, parce qu'il y a le côté clairon, il y a le côté très, très national, les gens qui mettent leurs mains à la hauteur du cœur. Il y a vraiment un côté très patriotique, puisque juste à côté, vous avez la cloche de l'indépendance, vous avez le balcon présidentiel, vous avez cette cathédrale, qui est aussi le cœur religieux actuel du Mexique. Et puis, vous avez les autres bâtiments, le Mont Piété, et la terrasse où je vais volontiers justement à cette heure-là parce qu'on mange à peu près à 2h de l'après-midi. Moi, je monte volontiers sur la terrasse du vieil hôtel Métropole.
Ah oui, avec plaisir.
Ah ben oui, il fait toujours beau à Mexico. On espère en tout cas avoir le beau temps aujourd'hui. Depuis le sommet, on voit les avions qui atterrissent, mais on voit aussi le Popo et l'Itzosihuatl, les deux volcans à l'horizon. Et puis prendre son repas ici, c'est une façon de prendre le temps d'admirer cette place avec ces petites fourmis qui se déplacent. Et dans l'angle entre le palais national et la cathédrale, il y avait avant le 21 février 1978, un trottoir de la rue Guatemala. Et curieusement, vous savez que comme pour le métro, on fait beaucoup de travaux en sous-sol, on le voit même chez nous, hein, tout à coup il y a une bouche qui est fermée avec une barrière et puis il y a des gens qui travaillent au sous-sol, un peu comme des taupes. Et en l'occurrence, il y avait deux électriciens qui faisaient les réparations sous le trottoir de la rue Guatemala. Alors, il faut voir la situation ce jour-là, c'est-à-dire qu'on connaissait une grosse tête de serpent, on avait une petite cahute avec en haut de reste du Templo Mayor, mais le Templo Mayor avait été complètement rasé par les Aztèques. Quand je dis par les Aztèques, sur le commandement des Espagnols, c'est-à-dire qu'on on avait décidé de supprimer un temple qui faisait 60 mètres de hauteur. Et on savait très bien que c'était un temple qui avait été fait comme un oignon, avec une sorte de volumétrie qui s'augmentait petit à petit au fur et à mesure des étapes de construction. C'est-à-dire les précolombiens commencent avec un cœur, on ne détruit jamais un monument, on rajoute simplement le suivant par-dessus, tout en le protégeant vraiment. Donc en fait, on a une sorte de millefeuille, mais je dis oignon.
Construction sur construction.
C'est ça. Alors en l'occurrence, tout cela a été rasé, et puis comme il y avait des immeubles coloniaux au bord de la rue Guatemala, des deux côtés, jamais personne n'avait fait de fouilles à l'endroit présumé du Templo Mayor. On savait qu'à l'endroit de la cathédrale, il y avait sûrement quelque chose d'intéressant. On avait trouvé le calendrier aztèque qu'on a vu à la salle d'anthropologie. On avait retrouvé des statues incroyables en faisant certains travaux ou lors du métro, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais on ne connaissait pas le cœur réel de Mexico.
Et ces deux électriciens, eux, ont décroché le cocotier.
Absolument, de façon incroyable. Alors, il faut que je vous raconte l'histoire parce qu'elle est assez passionnante. Imaginez ces deux hommes qui travaillent comme ça la nuit à la lueur de torches et qui font des réparations. Il y avait des câbles, des problèmes. Et puis, ils ont dû utiliser ces petits marteaux piqueurs dans un coin. Et tout à coup, ils tombent sur un monolithe. Enfin, quelque chose qui était lisse, qui faisait quelque chose comme 35 cm de haut. Bord arrondi comme cela, et tout à coup sur le dessus, il voit que c'est sculpté. Il voit qu'il y a un relief et qu'il y a vraiment une sculpture. Alors, dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit on dit rien, soit on en parle. Mais en l'occurrence, quand on en parle aux autorités officielles, immédiatement, il y a les archéologues, il y a les gens du musée d'anthropologie ou de l'institut qui arrivent. Et là, en l'occurrence, ces deux hommes ont été muets. Mais on est toujours muet vis-à-vis de ses voisins, mais rarement vis-à-vis de son épouse. Alors, le soir, sur l'oreiller, un des deux a dû comme ça parler à son épouse, qui, elle, en a sûrement parlé à la voisine. Et de fil en aiguille, quelqu'un a pris le téléphone et a téléphoné à l'institut en disant qu'il y avait quelque chose d'intéressant qu'on avait dû découvrir sur le trottoir de cette rue Guatemala. Donc cette nuit du 21 février 1978 est historique, puisque immédiatement après, on va appeler le directeur de l'époque, qui était Matos Montezuma. Matos Montezuma porte un nom sublime, puisque Montezuma, c'était le nom du dernier empereur aztèque, et que par son côté féminin, si j'ose dire, ou maternel, il porte encore ce nom. Et Eduardo Matos Montezuma va être chargé de faire les premières fouilles, et on va juste creuser ce petit coin de trottoir, et sublime découverte, on va trouver un monolithe de 3,20 mètres de côté, donc presque aussi impressionnant que le calendrier aztèque. Et puis on va commencer à l'étudier. C'était une sculpture qu'on ne connaissait absolument pas. On a retrouvé en surface, c'est quand même assez creusé, ça a quelque chose comme 5-6 cm de profondeur, l'allure d'une femme de nous voit, je dirais, avec ce côté vieillot des seins tombants, comme on les évoquait pour la déesse de la Terre. Et puis, la chose la plus curieuse, c'est que tous les membres étaient découpés. C'est-à-dire les bras et les jambes étaient séparés du corps. La tête elle-même était coupée. On voit très bien la chair, on voit très bien la graisse, on voit très bien ce découpage étrange qui fait qu'on a quelqu'un là qui se trouve tout à coup en 6 morceaux sur cet immense monolithe en aplat.
Maurice poursuivait cette fameuse histoire de ces deux électriciens qui ont découvert ce monolithe.
Alors, ça n'est plus une histoire d'électricien puisque maintenant tout est entre les mains de l'archéologue principal de Mexico et que bon, le président va venir. On veut voir ce monolithe. Il y avait encore des couleurs d'origine, du rouge, du blanc, toutes les couleurs symboliques que les Aztèques utilisaient. Il y avait du jaune aussi sur cette statue, enfin sur ce haut-relief. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui avait été démembré. Alors il a fallu lire petit à petit quel était ce personnage. Et puis alors, ce qu'on a remarqué immédiatement, c'est que cette femme vieillissante avec ses seins tombants, avec une étrange ceinture qui était de nouveau prise avec un énorme crâne qui tenait lieu de je dirais comme une chose qu'on place dans le dos, et la ceinture était faite de deux serpents, il y avait deux têtes de serpents au bout, il y avait un tas de symboles aux articulations. Ça ressemblait étrangement aux symboles qu'on connaissait déjà sur la fameuse femme à la jupe de serpent qui est Coatlicue, la mère divine, mais là il y avait quelque chose de plus. Il y avait une coiffe avec des petites boules de plumes, tout cela est très écrasé, hein. On voit la tête de profil et puis le corps est comme cela, totalement démembré, c'est vrai, mais un peu comme s'il avait passé sous un rouleau compresseur, si vous voulez, hein, puisque c'est carrément posé sur le monolithe. Et ce qu'on a remarqué immédiatement, c'est qu'il y avait d'abord des boucles d'oreilles très étranges avec des pointes, et puis sur la joue une espèce de hiéroglyphe. Et puis tout à coup on s'est dit, mais ce hiéroglyphe on l'a déjà vu à quelque part, et au musée d'anthropologie il y avait une statue verte énorme comme ça, une sorte de grosse boule joufflue avec les mêmes hiéroglyphes sur les joues, et on la connaissait comme étant Coyolxauhqui. Alors on dirait que c'est un nom un peu barbare, Coyolxauhqui, mais ça a une traduction. Mm-hmm. Coyolxauhqui, ça veut dire celle au grelot d'or peint sur le visage. Donc on comprend immédiatement.
Tous ces boucles d'oreilles.
Oui, et puis non, surtout ces petits hiéroglyphes qu'on avait sur les joues. Et c'est vrai, quand on regarde le hiéroglyphe, on voit que c'est un petit grelot. Vous savez, ces petits grelots qu'on avait sur les chevaux il y a déjà quelques siècles ou quelques dizaines d'années, avec la fente, exactement comme les Aztèques les faisaient dans du cuivre. Et en l'occurrence, la traduction exacte signifie qu'il s'agissait de la déesse de la lune. Alors, la lune sous un trottoir de la rue Guatemala, ça paraît un peu étrange, mais en fait, ce monolithe se trouvait, parce qu'il était placé à 1 ou 2 mètres en dessous de la surface du sol, on a immédiatement compris qu'il était exactement à l'emplacement du bas du grand templo mayor, du grand temple de Mexico. Alors, on connaissait ce temple parce qu'on a des dessins du XVIe siècle, on avait des chroniqueurs qui avaient raconté comment il était. On savait que c'était un temple qui était fait de deux temples jumeaux. et qu'en définitive, on montait comme cela sur à peu près 140 marches jusqu'à 60 mètres de hauteur avec deux petits réceptacles, deux hôtels entourés de constructions sur les deux sommets, les deux rampes d'escalier complètes. Et là, on a immédiatement imaginé que ce monolithe était en bas des marches.
Mmh, donc le socle de la pyramide.
Si vous voulez, hein, carrément la base même de l'escalier. Et puis, en déduction, on s'est dit, ben tiens, si c'est la déesse de la Lune, c'était la première fois qu'on la voyait comme cela, c'est-à-dire coupée en petits morceaux. Hein. C'est vrai que ce côté démembré, c'est assez intéressant. Et puis, on a relu les chroniques de l'époque, et tout à coup, on est tombé sur des poèmes de l'époque aztèque, parce que de manière orale, on a raconté beaucoup de choses aux premiers ethnographes de l'époque, c'est-à-dire les prêtres, les moines qui se sont installés à Mexico et qui ont monté des collèges. Là, je pense à Sahagún, qui lui avait monté un véritable collège à l'endroit où Mexico-Tenochtitlan était tombé, dans l'endroit qui s'appelle la place des trois cultures aujourd'hui, Tlatelolco. Et puis, on a relu ce poème qui est assez extraordinaire, qui correspond à la création, non seulement du monde, mais surtout des différents astres. Alors, c'est une histoire qui est très belle, je peux vous la raconter, c'est celle de la déesse mère, Coatlicue, celle aux jupes de serpent. Alors bon, ben on va se placer sur un sommet. Le sommet, ce serait une montagne, et cette montagne s'appelle Coatepec. Alors Coatepec, ça se traduit en nahuatl ou en aztèque, si vous préférez, par la montagne du serpent. Alors c'est important parce qu'on savait que les aztèques s'étaient battus, il y avait eu une bagarre entre eux, sur le plan tribal, à un endroit qui s'appelait Coatepec, mais laissons peut-être la chose de côté. On imagine une montagne en forme de pyramide, d'accord ? Mmh. Et puis, au sommet de cette montagne, que je vais appeler la montagne Pelée, si vous voulez, vous avez une vieille femme qui est là, et qui est la mère divine, et qui est en train de balayer. Elle a son petit balai à la main, elle balaye. Alors bon, déjà, le fait de balayer, ça vous paraît étrange. Elle ne fait pas le ménage. Quand non, on balaye...
Elle balaye les serpents, elle balaye les esprits, non ?
Non, dans l'idée précolombienne, c'est vraiment faire pénitence. Quand on balaye, ça veut dire qu'on fait le nettoyage intérieur. C'est un peu comme on va à confesse, si vous voulez. Et les Indiens d'aujourd'hui utilisent encore ce terme de balayage, hein, quand il s'agit de se vider, de tout avouer, etc. Donc cette femme est en train de...
C'était la petite fée du logis.
Si vous voulez.
Logis intérieur.
Elle est en train de faire son petit ménage intérieur. Et elle fait cela de façon très, très dynamique, comme cela. Et puis elle travaille sans autre. Elle est habillée en indienne, mentalement. Hein, c'est-à-dire qu'elle porte une jupe avec une large ceinture. Elle a un huipil, c'est-à-dire cette blouse des femmes qu'on porte. Et puis éventuellement cette forme triangulaire sur les épaules. Et puis, selon le poème, on dit que tout à coup est tombée du ciel une petite boule de plume. Hein, vous imaginez un petit duvet comme ça qui descend du ciel de façon un peu miraculeuse, comme ça, elle le voit descendre, et puis il s'arrête à sa hauteur, comme ça il passe à sa hauteur, elle l'attrape de la main, là je raconte cela comme j'aurais envie de le vivre, mm-hmm. Et puis la plume c'est quelque chose de fantastiquement précieux pour un aztèque, hein. C'est vraiment l'ornement par excellence, c'est quelque chose de fragile, enfin il y a toute une symbolique autour de la plume, on parlait facilement du serpent à plume.
Toucher, déjà c'est très
beau.
Fragile.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et les plus beaux objets des précolombiens étaient justement des coiffes, on pense à nos on pense à nos apaches, tout était fait de plumes. La plumasserie, c'est l'art majeur avec l'orfèvrerie qui est arrivé très tard. Et en l'occurrence, cette boule qui est trop précieuse, elle va vouloir la conserver. Or, une indienne, aujourd'hui, elle a deux solutions quand elle prend son porte-monnaie ou ses quelques petits billets qu'elle vient de gagner au marché. Elle a deux solutions pour les cacher. C'est soit son sein, c'est-à-dire l'intérieur de son huipil, ou alors l'intérieur de sa ceinture. En l'occurrence, Coatlicue va glisser sa boule de plume dans sa large ceinture, et par miracle, au bout de quelques semaines, vous l'aurez compris, elle tombe enceinte. Et c'est embêtant de tomber enceinte sans connaître le papa, ça vous rappelle une histoire connue. En l'occurrence, elle a déjà des enfants. Et ces enfants, ce sont les 400 étoiles, ou on les appelle les 400 lapins, c'est un joli nom, et ce sont les constellations qui sont dans l'espace. Hein. Donc vous couvrez la voûte céleste, et 400 ça veut dire 20 fois 20, donc c'est comme dans la Bible, on dit 7 fois 7 fois 7, uh-huh. Donc là c'est la multitude. Et puis elle avait une fille très importante qui était Coyolxauhqui. Et Coyolxauhqui, c'est la lune bien sûr qui régnait, je dirais, à cette époque mythique. Et en l'occurrence, quand les enfants et sa fille lui posent la question, enfin, qui est le papa, etc., il y a une sorte de révolte interne, c'est une sorte d'infamie qu'on ne supporte pas, et dans l'idée des enfants, on va vouloir supprimer la maman. C'est-à-dire qu'on trouve que c'est tellement infamant qu'on veut la sacrifier. Et finalement, c'est vrai qu'elle va l'être, parce qu'on a des statues où elle a la tête tranchée, mais il y a quand même une contradiction, parce qu'en même temps qu'on lui dit qu'on va la tuer, eh bien, de l'intérieur de son ventre, elle est enceinte, elle est carrément au huitième mois, si vous voulez, elle entend une voix, elle entend quelque chose qui lui parle.
C'est plutôt enfant du ciel.
Et c'est son fils qui est à l'intérieur, qui lui dit, ne t'inquiète pas, je naîtrai au moment où il le faut, et je vais naître tout armé, et je te défendrai. Et c'est vrai que qu'au moment où, où on imagine les 20 fois 20 qui grimpent comme ça sur la montagne, et puis la lune qui grimpe elle-même et qui va attaquer la maman, eh bien, Huitzilopochtli, le grand dieu tribal des Aztèques, sort comme un guerrier avec son bouclier, avec ses javelines, et il va effectivement démembrer sa propre sœur, la couper en morceaux et la jeter en bas de Coatepec, la montagne du serpent.
What is this thing in life that persuades me to spend time away from you? If you can answer this, you can have the moon. This is the place to be. Anywhere you can see, there's a lovely view. Why are there always so many other things to do? Distractions, like butterflies are buzzing round my head. I think of you and the life we'd lead if we could only be free from these distractions.
Maurice, j'ai beaucoup aimé cette petite histoire de la fée du logis, de la balayeuse.
Et de la lune, bien sûr. Et en l'occurrence, maintenant, vous venez de comprendre qu'on vient d'inventer un mythe, bien sûr, mais surtout la suprématie de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. En définitive, on était parti avec nos 400 lapins, là, les 708 Nawa, c'est un très beau nom.
Bien sûr.
Et Coyol Chauqui vient d'être vaincu, elle est coupée en morceaux, Et en définitive, d'écraser l'idée lunaire, l'idée agricole, et on vient de placer Huitzilopochtli, et je vous ai dit que c'était un guerrier. Il est né tout armé. Et c'est vraiment le petit dernier, comme ça, qui arrive et qui devient... Il y a quand même quelque chose d'assez curieux dans cette histoire, si vous remarquez, c'est que, involontairement, je vous ai presque raconté à un autre niveau la naissance de Jésus. Et d'une vierge. C'est-à-dire que pour les Indiens, quand les premiers chrétiens sont arrivés, ben finalement, cette histoire a été confondue, certainement.
C'est une belle version, en tout cas. Hein.
Et on voit, par exemple, qu'au nord, on ira certainement se balader quand on ira à Teotihuacan, à la Vierge, auprès de la Vierge de Guadeloupe. Tout le mythe de la Vierge de Guadeloupe est né sous l'idée de Tonantzin. Tonantzin, c'est un avatar, c'est un nom qui correspond à la mère divine qu'on évoquait tout à l'heure. Je reviens maintenant à la Lune pour quelques secondes. Donc vous venez d'imposer par ce mythe une forme politique nouvelle. C'est-à-dire vous venez de dire que les guerriers ou le guerrier majeur, Huitzilopochtli, ça veut dire le colibri de gauche ou le guerrier ressuscité du sud. C'est la même traduction, je la tourne différemment. Ça s'explique assez facilement parce que finalement, le guerrier ressuscité du sud, ça signifie que c'est à la fois quelqu'un qui est capable d'être un soldat et de faire la guerre, de la gagner ou éventuellement de la perdre. C'est-à-dire de mourir lui-même sur l'autel des sacrifices et de se transformer à ce moment-là par sa résurrection.
Il y a toujours une notion de sacrifice.
Mais c'est normal, parce qu'en fait, leur système d'énergie ne fonctionne qu'avec cela. Alors, c'est vrai que ce guerrier ressuscité du Sud, ça va devenir une divinité majeure qui est en fait l'idée même que le guerrier se fait dans son idéal de mourir un jour sur le champ de bataille. On assommait rarement sur le champ de bataille, c'était plutôt par carte de visite. Enfin, on avait une solution assez étrange. Ce qu'il fallait, c'est d'attraper les gens par les cheveux et les ramener pour pouvoir ensuite les sacrifier sur le grand temple. Alors, vous venez de comprendre aussi que je viens d'inventer le temple lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, en imaginant la colline, ma montagne chauve de tout à l'heure, le Coatepec, la montagne du serpent, eh bien, j'ai inventé un endroit où s'est passée une véritable bataille entre Aztèques eux-mêmes pour faire le tri, et en même temps, je viens d'évoquer le fait de pouvoir mettre quelqu'un en haut de la pyramide et d'être sacrifié et d'être jeté comme la première déesse en bas et de finir sur le plateau de la déesse qu'on a découvert sur le trottoir de la rue Guatemala. Mmh. Alors c'est assez extraordinaire de voir que je viens d'inventer en même temps la force du guerrier qui lui reste et sera placé en haut au nom de sa mère, au nom de tous. Huitzilopochtli devient le vrai dieu tribal des Aztèques, donc les Aztèques sont des guerriers et c'est par la guerre, c'est par le sacrifice humain, c'est par la conquête que ces gens-là vont imposer leur politique à tout le reste du Mexique. Le dernier petit devient le plus fort, il est capable d'écraser tout le monde paysan, toutes les structures antérieures, tout le classicisme qui existait jusque-là. Et finalement, le grand temple de Mexico Tenochtitlan qui va être construit, je dirais, devant cette pierre qu'on vient de découvrir, eh bien, on va pouvoir le refaire mentalement parce que Eduardo Matos Montezuma sera chargé par le gouvernement à partir de 78 de tout raser. C'est-à-dire qu'on va enlever carrément toutes les maisons coloniales de ce quartier, on va faire un énorme trou à côté de la cathédrale et on va commencer les fouilles qui vont durer plusieurs années. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de cette pierre qu'on a remis en place aujourd'hui en moule, on va même faire un énorme musée où il y a 6000 pièces archéologiques qu'on va découvrir en quelques mois et on va pouvoir faire un parcours dans ce musée qui va vous faire monter le temple de Huitzilopochtli qui est à droite et puis ensuite redescendre dans le temple de Tlaloc qui est à gauche. Alors mentalement, je suis obligé de les placer. J'ai bien dit qu'il y avait deux escaliers, qu'il y avait deux temples au sommet et finalement, ce qui a été troublant, c'est qu'on a découvert uniquement les bases de ces temples puisque tout avait été rasé et les bases de ces temples sont l'une derrière l'autre, c'est-à-dire que chaque fois que vous trouvez un escalier, vous êtes sûr qu'il y en a un autre caché derrière. Et on a retrouvé comme ça 11 structures les unes sur les autres, 6 temples qui ont été refaits les uns après les autres, avec des recollages pour arriver justement à 11 structures. Ça veut dire que chaque fois qu'on repeignait, qu'on retapait, qu'on reconstruisait, on amplifiait l'avant du temple, on le gonflait si vous voulez. Et on est parti d'une toute petite structure qu'on a retrouvée dans le cœur et qui remonte à 1390 par rapport à 1519, à l'arrivée des Espagnols. Je dirais même que la dernière inauguration a eu lieu en 1483 et puis on a fait un petit coup de peinture en 1502 quand Montezuma est monté sur le trône, mais on a retrouvé le cœur de 1390 et là on a été fasciné parce que pour la première fois on a trouvé le temple parce qu'il était suffisamment petit et bas pour pas avoir été complètement rasé. Alors on a retrouvé l'escalier, on a retrouvé les bases du temple, les peintures du temple et pour la première fois on a trouvé une pierre de sacrifice, c'est la seule qu'on connaisse vraiment en place. Et puis ça c'était devant le temple de Huitzilopochtli et à gauche on a trouvé un chacmol qui est une espèce de personnage couché avec un plateau qu'il tient sur le ventre, tout en couleur. Et puis on a découvert les peintures à l'intérieur des temples qui nous font bien comprendre qu'il y avait deux temples bien séparés. Alors, dans votre imagination, je ne sais pas, vous pourriez mettre par exemple un temple avec du rouge pour Huitzilopochtli et du bleu pour le dieu de la pluie à gauche. Et finalement, on comprend maintenant que cette structure était une structure mentale incroyable. C'est-à-dire qu'au fond, à partir de la base, qui est un carré, si vous voulez, on a juxtaposé les deux temples et on a imaginé qu'en fait, tout cela permettait de monter vers le ciel. Alors, essayez de penser que le ciel est fait d'une pyramide, hein, qu'il est construit comme une pyramide. Il y a 13 degrés qui vous permettent d'aller jusqu'au sommet. Et puis tout en haut, on a cet entendement curieux, mâle et femelle, qui est absolument, je dirais, omniprésent, mais qui est impalpable et qui était représenté justement par cette dualité curieuse qu'on a déjà vue d'ailleurs au musée d'anthropologie. Vous vous rappelez des deux têtes de serpent. Et puis la partie qui est dessous, ce serait les 9 degrés de ce monde infernal qui descend. Alors, en collant les deux temples l'un à l'autre, comme ceci, on a involontairement créé une sorte de jonction entre le haut et le bas. Alors, attention, accrochez-vous deux secondes. Imaginez-vous que Huitzilopochtli et son temple qui est à droite, vous le faites monter vers le ciel. Et que le temple de Tlaloc, je viens de tourner mes deux mains ensemble, comme si elles étaient collées, le temple de Tlaloc devenait un temple qui allait sous terre. Alors là, vous comprenez mieux que l'idée de la pluie, l'idée de l'eau, l'idée terrestre, l'idée de la lune, c'est l'agriculture, c'est le sous-sol. Hein, la carotte est plantée, elle est en terre. Et puis la floraison, si vous voulez, c'est le côté solaire. La chlorophylle, c'est ce qui est en haut. Donc, je viens d'inventer 13 et 9 tout en les mettant l'un à côté de l'autre. On ne pouvait pas construire sous terre. Donc, on avait imaginé simplement que ces deux temples jumeaux représentaient l'axis mundi lorsqu'ils étaient en sandwich au centre. Et puis que mentalement, on était capable de les incliner. Et ils sont eux-mêmes complètement orientés entre le soleil qui se lève et le soleil qui se couche. Donc on a aussi la naissance et la mort simplement par la direction même du temple. Alors ça devient fabuleux parce que les offrandes qu'on a trouvées quand on a commencé à fouiller, les plus fascinantes se trouvaient entre les deux temples. C'était à l'endroit du collage. Et là, on a remarqué qu'effectivement, c'était le lieu de puissance absolue puisque c'était vraiment la réunion entre le haut et le bas. Et je vous ai dit, on a retrouvé des centaines d'offrandes, plus de 50 caches à offrandes, des milliers d'objets. Tout cela a été mis dans des petits coffres-forts à l'intérieur, comme cela, bien enterré. Et vous allez voir que quand on rentre dans le musée, on découvre ces 6000 pièces et on se dit qu'ils avaient tout mis, du petit brin d'herbe jusqu'à la statue la plus sophistiquée.
If you say hi.
nous sommes, Maurice. Nous sommes dans le musée, en plein dans le musée.
Oui.
J'ai failli me perdre dans une des salles, carrément.
Quand on pénètre dans le musée du Templo Mayor, bon, c'est un musée qui ressemble à un Munker, il n'est pas très beau en soi, mais il est caché un peu à l'arrière de ces structures pyramidales que vous venez de traverser. C'est-à-dire que vous avez une véritable balade, comme dans un parc avec des plateformes pour voir le tout, pour visiter le tout. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait plein de choses. C'est-à-dire qu'on a vu le monolithe, on a vu ces structures.
Ah bah si vous les... dites qu'à 6000 pièces.
Ah oui, mais à l'extérieur, on a laissé uniquement les structures que les archéologues nous ont laissées. C'est-à-dire qu'ils ont vidé, si vous voulez, tout ce qui avait été remplissage. Et ça nous permet de voir les couches successives, comme ça, conçues les unes après les autres. Et puis, il y a un endroit que je trouve assez curieux. Au 19e siècle, on avait fait une sorte de canalisation pour des égouts, avec des briques, comme ça, en arc de cercle, et tout cela traversait carrément tout le Templo Mayor. On ne s'était même pas rendu compte au 19e siècle qu'on avait, on le savait peut-être par des pièces et certaines choses qu'on avait trouvées, mais on n'imaginait pas qu'on avait traversé tout le temple comme si on avait fait une véritable saignée à l'intérieur. Et puis, ça nous permet aujourd'hui de voir qu'on a été trop bas et que ça nous coupe tout cela bien en petits morceaux. Et puis, on pénètre dans le musée. Et là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on nous permettait à la fois de monter dans le temple de Huitzilopochtli, ça c'est l'architecte qui l'a voulu comme ça, et la conception est belle, et puis ensuite on redescend dans le temple de Tlaloc. Alors il y a vraiment deux mondes et deux couleurs, parce que quand vous êtes dans le côté Huitzilopochtli, vous parlez de cette suprématie, de ce côté guerrier. Alors tous les symboles sont un peu morbides par excellence. Il y a par exemple des centaines de couteaux de silex qui sont tous habités. Quand je dis habités, il y a un petit œil, il y a des dents qui sont un peu mordantes comme ça, et il y a même des couteaux qui font un mètre de hauteur. Et je vous ai bien dit que quand on pense à un silex, c'est la création du monde, c'est le début des choses, c'est le début du sacrifice humain, c'est cette invention de légende et de mythe qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, il y a des pièces absolument sublimes parce qu'on a ouvert une cinquantaine d'offrandes. On a par exemple une salle qui nous montre tous les produits qui sont arrivés de l'ensemble de la Mésoamérique, c'est de l'ensemble du monde aztèque de l'époque, et qui ont été en somme enfermés dans des coffres-forts à l'intérieur d'une inauguration, c'est-à-dire au moment d'une inauguration du Templo Mayor. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans une cache à offrandes?
Je vous pose la question.
Bah oui. On va pouvoir mettre des objets sacrés, des sculptures, des divinités. Vous les retrouvez toutes, hein, le Chipetotec, le dieu guerrier dont on parlait, des évocations des différentes divinités agricoles, etc. Mais en même temps, vous aurez par exemple du côté de Tlaloc absolument tout ce qui correspond non seulement au monde agricole, mais au monde faune et flore. Et c'est fabuleux parce qu'on a trouvé, parce que les études sont un peu plus poussées maintenant en archéologie, on a trouvé des pollens, on a trouvé des centaines de plantes différentes, on a trouvé des poissons-ci, des tortues, des alligators, on a trouvé un jaguar avec dans sa mâchoire un énorme couteau de silex, on a trouvé des poissons qui vivent à 20 ou 30 mètres sous mer, j'entends du côté pacifique ou du côté atlantique. On a l'impression qu'on a réuni dans ces caches tout ce qui pouvait exister pour montrer qu'en fait là on était dans le moteur des choses et du temps. Et ce qui est peut-être encore plus fabuleux, c'est que cette façon d'amener les choses de l'extérieur nous prouve qu'on est même allé à l'extérieur du monde aztèque. On a par exemple des centaines de sculptures qui viennent de la région d'Acapulco, c'est simplement pour vous situer, hein, de la région du Guerrero. Ce sont des masques superbes, qui sont des espèces de galets travaillés, des petites statuettes. On les a souvent jetées en vrac comme ça, par dizaines dans une même offrande. Vous avez par exemple, c'est la première fois qu'on découvrait cela au Mexique, on s'est rendu compte tout à coup que les Aztèques connaissaient leur propre histoire. C'est-à-dire qu'ils étaient conscients qu'avant eux, il y avait eu 3000 ans d'histoire. Mmh. Et vous avez retrouvé des masques de Teotihuacan du début du siècle, du début de notre ère, pardon. Vous allez trouver, par exemple, un masque Olmec qui remonte sûrement à 1000 avant Jésus-Christ. Pour un archéologue, c'était vraiment une révolution parce que c'est la première fois qu'on voyait des antiquités enterrées à l'époque aztèque. Je vous rappelle que les Aztèques, c'est entre 1480, grosso modo, et 1519.
C'était donc des grands archéologues.
Pas archéologues, mais le simple fait de trouver des objets sacrés d'autres cultures, je vous donne un seul exemple. On ira sûrement se balader à Teotihuacan. Sachez que l'empereur aztèque allait tous les 20 jours, c'est-à-dire chaque mois, et il faisait sa balade complète de Mexico-Tenochtitlan jusqu'à Teotihuacan à 40 km, qui n'était plus qu'une montagne pelée et sacrée. On savait que c'était des géants, on savait qu'il y avait quelqu'un qui avait construit quelque chose d'incroyable. 1 million de mètres cubes de terre, ça ne s'oublie pas. Eh bien, il partait avec sa chaise à porteur tous les 20 jours pour aller prier à Teotihuacan. Donc le passé avait encore une importance et leurs origines, si vous voulez, culturelles, étaient reprises dans toutes les autres cultures. Et tout cela a été réuni dans le Templo Mayor. Ce Templo Mayor, il y a aussi des choses très touchantes. Il y a par exemple une salle, la dernière, lorsqu'on finit du côté de Tlaloc, on arrive à l'époque coloniale parce qu'on a trouvé un tas de choses contemporaines aussi. Il y a par exemple un lingot d'or. Un très beau lingot d'or. Mmh. On imagine ces bijoux extraordinaires qui ont été fondus. Dans la nuit triste, au moment où Cortés a dû s'enfuir de Mexico, quelqu'un l'a abandonné. Il est sûrement mort sur une digue ou carrément pris dans la boue. Il y a des dessous de colonnes chrétiennes qui sont entièrement sculptées de façon aztèque. Des anciennes sculptures qui ont été reprises, mais l'Indien avait justement coincé entre deux morceaux d'un monument colonial son histoire, son passé à lui, son monde aztèque. Quand vous voyez un petit morceau de Coyolxauhqui, un morceau de divinité comme ça, juste là, entre deux morceaux de colonne espagnole, on comprend qu'ils n'ont rien oublié.
Nous sommes toujours dans ce musée, le Templo Mayor à Mexico, Boris.
On n'a rien oublié, comme j'ai dit.
On n'a rien oublié, oui.
Non, c'est vrai qu'on n'a rien oublié quand on est aztèque. Ça veut dire par là que quand on a un empire pareil entre les mains, qu'on est empereur, et qu'on se rend compte que comme Tlatoani, qui veut dire celui qui parle, celui qui a vraiment la parole et qui maintient vraiment le monde en place, qui est la pointe de cette aiguille, de cette pyramide incroyable, et avec la fragilité qu'on a quand même ressentie, c'est-à-dire cette peur du cataclysme, cette peur que tout s'ébranle, ben on repart aux origines. On repart aux origines, l'Aztèque savait pertinemment qu'il était le dernier petit, qu'il était vraiment le petit mercenaire. Vous savez, quand on fonde un pays comme la Suisse, et qu'on s'imagine au Grütli, et qu'on voit les trois premiers, et qu'ensuite il y a le Morgarten, etc., il faut des guerres, il faut simplement un premier petit rien contre quelque chose de gros, l'Autriche par exemple. Mmh. Et en l'occurrence, les Aztèques étaient simplement une petite troupe de nomades qui sont arrivés du nord, qui sont partis du Nil, qui s'appelait Aztlan, l'endroit de l'aigrette blanche. Et on voit ça dessiné avec un petit bateau qui part. Ils avaient déjà Huitzilopochtli dans un petit temple, et puis ils le portent sur leurs épaules comme ça. Et ils font des dizaines, des centaines de kilomètres. Ils s'arrêtent en route, ils fondent leur mythe, les premiers. premières grottes de la création, l'histoire de Coatepec, l'histoire de la Lune et tout ça. Et quand ils arrivent à Mexico, ben, personne ne les veut. Ils sont vraiment les refoulés de service, ce sont vraiment les immigrés qui sont refusés totalement. Alors il faut justifier tout ça. Et pour le justifier, il faut créer une sorte de suprématie en inventant des mythes. Et le Templo Mayor, ben, c'est le rocher. Ce rocher qui s'est trouvé dans une lagune. Essayez d'imaginer cet endroit comme ça, totalement en plane, avec ce calme absolu, ce côté lacustre, avec ces quelques villes et villages blancs, avec déjà des ahuehuetés, des premières cultures qui étaient faites sur des radeaux qui s'enracinaient au fond de l'eau pour créer, disons, toutes des zones à la fois horticoles et maraîchères. Donc cette espèce de Venise qui existait uniquement sur les bordures, et puis ce rocher qui est au centre, complètement magique pour eux, même s'il était déjà occupé, c'est pas important. Il y a le fait que Huitzilopochtli leur avait simplement dit: le jour où vous verrez un aigle se poser sur un cactus, sur un rocher, vous saurez que c'est l'endroit où vous devez fonder le centre du monde. Et cet aigle qui se pose sur un opale, c'est le figuier de Barbarie. Vous le voyez, il est royal, il est absolument, c'est l'oiseau solaire par excellence, c'est celui qui est là-haut au XIIIe siècle, qui peut même converser avec le monde de la dualité. Il est brûlé par ce soleil de midi, ce fameux soleil qui est au centre du calendrier aztèque, il se pose sur le cactus. Or le figuier de Barbarie, il a des figues, et quand vous décrochez une de ces figues un peu piquante, un peu arrogante, elle est verte, elle est superbe, au moment où vous la tranchez, elle est rouge à l'intérieur, une couleur absolument extraordinaire. Et il prend cela dans ses serres, il va amener cela vers son bec. On a d'ailleurs une sculpture superbe au musée d'anthropologie qui montre cette image. Et puis, la légende dit qu'à ce moment-là, vous avez ces guerriers qui sont au bord de l'eau, cette petite troupe avec quelques arcs et quelques flèches, et ils savent bien que si cet aigle est là, il va pencher la tête, il va les regarder et leur montrer que c'est bien l'endroit pour déposer leur dieu Huitzilopochtli, ce dieu tribal, ce dieu guerrier. Et le simple fait d'avoir pris une figue de Barbarie comme cela et de l'avoir pétrie dans ses serres, l'aigle vous prouve que s'il est soleil, énergie solaire, il vient de manger quelque chose qui est vert, comme vous êtes vert, comme nous sommes vivants en dehors, et qu'à l'intérieur, il y a le rouge, c'est le cœur humain. Or que pour que tout cela continue, pour que tout cela fonctionne de manière politique, économique, il faudra inventer le premier sacrifice, celui de Coyolxauhqui, il faudra inventer le dieu qui tue le dieu, il faudra inventer le dieu qui demande à l'homme de se tuer lui-même pour faire fonctionner la machine. C'est une communauté. Personne n'a le droit d'éviter, je dirais, ce châtiment fantastique qui fait que vous allez inventer votre propre paradis, le plus beau des paradis. Et vous l'avez simplement en offrant votre cœur pour que tous les autres vivent. Et à partir de là, vous pouvez dominer le monde et toutes les autres civilisations. L'Aztèque a été le premier à inventer une politique sacrificielle qui a fonctionné de manière merveilleuse. Mais attention, il y a danger, vous êtes sur un fil, il suffit que le fil casse, il suffit que celui qui a la parole se taise, et le monde s'écroule. Plus personne ne bouge, c'est une communauté. Cortés arrive, il ébranle tout cela, le Templo Mayor sera rasé en quelques jours, en quelques mois. Il n'y a que la mémoire aujourd'hui, et oui, il n'y a rien d'autre qui soit resté à Mexico Tenochtitlan que quelques fondations, quelques objets, des offrandes. Rentrez encore une fois dans le musée, ce musée du Templo Mayor. Regardez Coyolxauhqui, elle a gardé toute sa force. C'est un vrai réceptacle, c'est une domination. Aujourd'hui, ce soleil, c'était la lune.
Et on se retrouve dimanche prochain.
Chic.
Entre 11h et midi.
Pour un autre soleil.
On ira où?
On pourrait peut-être faire la place des Trois Cultures, qui est le pendant du Templo Mayor. Et je dirais qu'on pourrait monter voir la Vierge de Guadeloupe, qui est tout au fond, là-bas, au bord du lac, à l'époque. Un très très beau temple précolombien qui va être transformé en église. Et puis ensuite, on glissera du côté des pyramides de Teotihuacan.
À dimanche, Maurice.